Merci Tiffaine et bon week-end. Deux éblouissements, des explosions, du jasmin, des poèmes et des pinceaux, Joyce Mansour et Unika Thurn. La première fait l'objet d'une publication inédite par Cyril Zola Place. La seconde, l'objet d'un roman graphique en forme de portrait par Céline Wagner.
La Compagnie des Poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Quelquefois, les danseurs, ben, ils ne sont pas bien dans leur peau, ils sont pas. Ils arrivent, par exemple, si vous avez fait de la danse, ils arrivent à la répétition, on sent qu'ils sont comme ça, mal réveillés, mal dans. Puis la musique, 10 minutes de choses, d'exercice, et puis ils sont déliés, ils sont bien, on voit, ils ont tous les traits repassés, c'est tout à fait autre chose. Et l'écriture, c'est un peu ça. Après, on peut continuer à se mouvoir comme ça, dans. Tout va mieux.
Tout va mieux. Cyril Zola Place, Céline Wagner, bonjour, bienvenue à tous les deux. Au programme aujourd'hui, donc, Joyce Mansour, dont on vient d'entendre la voix si particulière, et Unika Thurn, deux destins absolument contemporains, hein, deux étrangères dans le Paris d'après-guerre. L'une, Joyce Mansour, née en 28, venue d'Égypte, jeune fille de très bonne famille, juive séfarade de langue anglaise, très vite poétesse, qui viendra rejoindre et assidûment le surréalisme de la fin des années 50 à Paris. L'autre, Unika Thurn, bien née, elle aussi, à Berlin en 1916, qui viendra rejoindre le surréaliste Hans Bellmer en 53 à Paris. L'une disparue à 58 ans, l'autre suicidée à 54 ans. Poèmes, pièces de théâtre, prose, contes, jeux, textes, adresses aux amis peintres et poètes pour Mansour. Dessins automatiques, poèmes, anagrammes, prose et 13 années à batailler avec le réel et une schizophrénie, diriez-vous Céline Wagner. Pour Thurn, il y aurait sans doute de quoi dire, hein, des liens et des écarts, sans doute aussi, entre ces deux femmes poètes et quant à la place qui leur fut faite. Il y a bien sûr le jasmin que portait Mansour et le jasmin dont Thurn fera une figure rêvée. Il y a les ombres de Breton ou de Bellmer. Alors je ne sais pas si elles se connaissaient ni à quel point elles se connaissaient, par Bellmer sans doute, mais un personnage secondaire les lit certainement. C'est Henri Michaud qui est une figure quasi fantasmée par l'une et qui peut-être tient un autre rôle pour l'autre. Céline Wagner, alors je précise que vous êtes avec nous depuis France Bleu Périgord à Périgueux. Michaud, HM, hein, dont vous faites un fantasme dans le royaume d'Unika Thurn, dans le roman graphique que vous lui consacrez aux éditions La Boîte à Bulles. Hein. Qu'est-ce que Unika Thurn projette donc par la figure de Michaud, Céline Wagner?
Unika Thurn est fascinée par les poètes et les artistes. Elle est avant tout fascinée par les visages. Et Henri Michaud est associé à des visages comme celui de Jean-Louis Barrault, par exemple, et celui de Hans Bellmer. Unika a une quête, elle en a plusieurs, mais elle a une conviction, quelque chose en quel elle croit de manière absolument irrationnelle, c'est qu'en superposant tous les visages, elle pourra atteindre la vérité du visage. Et ce visage unique, elle le voit en la personne d'Henri Michaud. Alors, est-ce que sa rencontre ou son amour pour Bellmer était antérieur à ce fantasme du visage unique qu'elle projette dans la figure d'Henri Michaud? L'histoire ne le dit pas vraiment, surtout que chez Unika Thurn, le temps n'a pas vraiment de réalité. Donc toutes les époques de sa vie se mélangent, mais enfin la frontière est poreuse entre chaque moment de sa vie.
Tout cassé, briser l'image du pénis paternel, lové comme un serpent dans un vase de galets, écraser sa tête sous un talon d'acier, un vague sentiment de retour vagit dans le ravin. Passé août. Il faut rire en montant les marches de la vieille maison, éventrer les acteurs égrenant leur bigoterie, haïr les fébriles et gorger les assis, déraciner les morts assoupis dans leurs excréments, avaler, cracher, oublier, maudire la chair bêlante, huileuse comme un lit défait. Il faut mastiquer, éjaculer, boucher les orifices, replâtrer l'hymen. La mort est un porte-tambour.
La voix de Joyce Mansour, une fois encore, que vous avez demandé à entendre, Cyril Zolaplace, bien sûr, ça va de soi, nous aussi, on est ravis de l'entendre, surtout que c'est une voix un petit peu particulière. Qu'est-ce qu'elle raconte pour vous, cette voix ?
Elle a à la fois le fait que ses airs soient, entre guillemets, adoucis, quelque chose qui peut être, qui peut exprimer une certaine, on parlait de parfum au jasmin, une certaine lourdeur orientale, mais en même temps, il y a quelque chose qui relève de la pureté du cristal ou de la silice, du sable, et plus que le côté langoureux ou loukoum qu'on pourrait associer de manière négative.
Ce qu'on n'a pas manqué de faire.
Exactement. Il y a plutôt cette rudesse, cette sécheresse, cette ouverture, cet infini du désert de pierre chauffée à blanc.
Dans ce qu'on vient d'entendre, au-delà de la voix, dans ce poème qu'on vient d'entendre, ce qu'on entend aussi, c'est le recours martelé, répété, à l'infinitif. Qu'est-ce que ça voudrait vouloir dire ?
Là, de manière très spontanée, ce serait justement le verbe, l'action, l'agir, hors de sa conjugaison. Donc hors du rapport identitaire, c'est quelque chose de traversant, traversé. Le jeu qui peut être utilisé par exemple dans sa poésie est aussi bien le sien que celui du lecteur ou qu'un jeu anonyme. Et pour revenir à votre question sur l'infinitif, ce serait une explication ou une compréhension possible.
Alors, d'elle, on pensait connaître les œuvres complètes, hein, depuis Les Cris, qui est son tout premier recueil paru en 1953, au Trou Noir, paru en 1986, et puis paru aux éditions Actes Sud, vous venez de le dire. D'elle, on avait pu apercevoir aussi l'appétit de collectionneuse, hein, dans une exposition au musée du Quai Branly, il y a peu. C'était Sans compter sur Spirale vagabonde et autres parallèles inédites en labyrinthe. C'est bien long à dire, que vous éditez aux nouvelles éditions Place des textes de toute nature, hein, qui sont rassemblés et difficilement rassemblés par Laure Missire, à qui on doit déjà donc une biographie sous le titre d'une étrange demoiselle aux éditions Jean-Michel Place. Ça, c'était en 2005, un travail de titan issu des archives de son mari, hein, de Samir Mansour, à partir de carnets, de notes, de cartes postales, de jeux, de textes de catalogue, de poèmes écrits sur le moindre support, à l'endroit, à l'envers, des manuscrits classés en vrac. Qu'est-ce qu'une telle matière, pour le moins hirsute, hein, si j'ai bien compris, de ce que Laure Missire a pu découvrir, est venue corriger de l'idée qu'on se faisait de Mansour ?
Alors, beaucoup de choses. La première, c'est que des voix plus ou moins médisantes qui ont peut-être contribué à laisser Joyce Mansour dans l'ombre disaient qu'en fait, c'était peut-être Breton qui avait écrit tous ses textes ou sa poésie. Et puis, quand on regarde justement, quand on plonge dans ces archives, on s'aperçoit d'abord qu'il y a quelques corrections qui ne viennent pas de sa main, mais qui sont des corrections orthographiques et qui sont probablement le fait de son mari, puis peut-être de ses enfants. Mais surtout, on voit la manière dont elle travaille, et la manière dont elle travaille est une manière qui joue avec le temps, qui joue avec l'espace, et où elle se collage, elle se reprend, elle recycle. Il y a un côté très toile d'araignée, très mosaïque, qui est assez surprenant et qui est très intéressant, qui revient aussi à une manière de fuir tout cloisonnement et tout rapport identitaire à l'écriture. Et ce travail archéologique opéré par Laure Cyr, avec l'ajout des notes organiques qui sont à la fin, qui permettent de recontextualiser tous ces textes dans l'ensemble de sa vie, la vie de son œuvre, et notamment de ce qui avait déjà été publié, nous permet de rentrer vraiment dans l'Athanor de sa poésie.
Ce titre-là, c'est-à-dire le recours à la spirale, à l'idée de parallèle, l'idée de labyrinthe, donc de placer ce rassemblement de textes sous ces signes-là, en quoi est-ce que ça viendrait éclairer, justement, cette fabrique même ?
La spirale vagabonde, elle évoque pour moi l'arabesque. L'arabesque, c'est... Il y a toujours un centre qui permet de dessiner l'arabesque, mais ce centre est toujours en mouvement, il se déplace toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, pour revenir au problème du rapport souvent identitaire sous lequel on veut définir une œuvre, chez elle, il est exclu, mais ça ne justifie pas qu'à chaque moment d'écriture, il y ait un centre, mais ce centre se déplace. Et en fait, toute son œuvre, tous ses écrits peuvent être lus comme un jeu d'arabesque et de spirale vagabonde. D'ailleurs, au départ, avec Laure Cyr, quand elle m'a montré tout son travail, on a eu l'idée de publier quelque chose qui ressemblerait au livre malarméen. C'est-à-dire l'idée d'un livre qui ne serait pas relié, où le lecteur pourrait battre les cartes, battre les pages et reconstituer à chaque fois une nouvelle œuvre, de manière à ce que l'écriture, enfin la lecture, se calque sur un mode d'écriture qui est celui de Joyce Mansour, c'est-à-dire de toujours fuir le cloisonnement et le rapport identitaire que l'on pourrait entretenir à un texte ou qu'un écrivain peut entretenir par rapport à son texte.
Qu'est-ce qu'une jeune femme de la haute société égyptienne, de langue anglaise, va trouver dans le corpus surréaliste, parce que c'est bien à eux qu'elle adresse ses poèmes? Son premier recueil de poèmes, Cri, en 1953, elle l'adresse à Breton, elle l'adresse à Mandiargue, donc c'est leur approbation qu'elle va chercher. Qu'est-ce qu'une jeune femme, issue de ce contexte-là, va reconnaître dans le corpus surréaliste? Un corpus surréaliste, on est dans les années 50, qui commence lentement, mais sûrement son déclin.
Deux choses. D'abord, je pense que au début des années 50, elle fréquentait certains salons littéraires au Caire, et elle est sensibilisée aux productions et surréalistes par Georges Hénin. Mais je crois que ce qui est plus décisif, c'est la rencontre avec son second mari, Samir, qui lui était aussi égyptien, très bonne de la haute société égyptienne, mais de langue française. Et en fait, elle apprend le français très tardivement. Et je pense que cette...
Pour lui.
Mais en même temps, je pense que ça lui ouvre une porte au niveau de l'écriture et un autre rapport, justement, à l'écriture qu'une langue maternelle, en fait. Ça lui crée une deuxième ou une double étrangeté. Et surtout quand elle arrive après en France, elle est doublement étrangère. Et je pense que ça a dû certainement contribuer à rendre son écriture qui est caractérisée par une polymorphisation du jeu. Voilà.
Qui change même, dit-elle, hein, ce glissement contraint d'une langue à une autre, de l'anglais au français, change même en profondeur sa pensée, dit-elle, Joyce Mansour. Et ce qui est intéressant, c'est que ce premier recueil, Cri, elle commencera à écrire ses tout premiers poèmes en langue anglaise. Hein, et c'est à l'occasion justement de ces premiers poèmes-là qu'elle va passer d'une langue à l'autre, hein, puisque vous en éditez d'ailleurs certains, hein, issus de ce premier corpus d'écrits qui n'ont pas tous été publiés. Alors je ne sais pas, ça veut peut-être dire que certains étaient impubliables.
Moi je trouve que ceux qui ont été laissés de côté pour une grande part sont beaucoup plus forts, beaucoup plus bruts. Alors brut ça ne veut pas dire pas travailler, mais en tout cas où la censure, où l'autocensure est beaucoup moins importante. Après je ne sais pas quels sont les choix qui ont présidé à cela. Est-ce que c'est l'éditeur lui-même? Est-ce que c'est la famille, enfin Samir Mansour et Joyce Mansour qui eux-mêmes ont eu peur d'identification, hein, c'est pas parce qu'on parle en permanence, entre guillemets, d'érotisme, qu'on est forcément dépravé. Ou peut-être qu'il y avait peur de peur sociale, je ne sais pas. Voilà.
Qu'est-ce que ces premiers cris, vraiment, littéralement, pose d'emblée.
Et ce qui est intéressant déjà dans, cri, dans les cris, c'est que, j'allais dire cri noir, un beau grand écart avec les trous noirs, donc son dernier recueil.
86.
C'est la manière dont elle utilise et renverse en fait toute son angoisse de la mort à travers une explosion des forces du désir et embrassée par un humour noir assez décapant et une forme d'autodérision aussi.
Alors cette forme d'autodérision ou cette forme d'ironie, on avait jusqu'ici pas encore parlé d'érotisme, ce qui est quand même la grande affaire de Joyce Mansour, mais qui a donné lieu probablement aussi à quelques malentendus, cette question de l'érotisme, la façon dont elle a été lue, y compris par les surréalistes. Qu'est-ce qu'il faudrait dire de ce recours-là, c'est-à-dire de ce recours qu'elle va maintenir tout au long de sa vie, de ce recours à l'érotisme, qui, disent certains, ferait passer Histoire d'eau pour une bluette. Est-ce que ça voudrait dire que l'érotisme, c'est le recours à la violence? Est-ce qu'on parle de transgression? Est-ce que c'est d'abord une question de langue?
Même si certaines images peuvent être associées justement à une forme d'érotisme de bas étage, chez elle, l'érotisme, c'est un processus. C'est lié au désir, c'est lié à l'action. Le désir, c'est ce qui permet de mettre en mouvement. Et c'est ça peut-être qui est déroutant, parce que évidemment, l'usage conventionnel de la langue est un usage symbolique, cloisonnant. Et c'est ça, cette force érotique de ces textes, c'est qu'elle elle décloisonne, elle dissout en fait tous les repères culturels, identitaires, sans les renier, mais en les embrassant et en les brassant.
Même morte, je reviendrai forniquer dans le monde, disait-elle.
C'est pas mal.
Est-ce qu'il y aurait... Alors, c'est pas mal. Si on le prend effectivement, j'imagine, dans le sens auquel vous pensez, mais est-ce qu'on ne peut pas penser aussi qu'il y a de l'ironie à l'érotisme de Mansour?
Alors certainement par rapport à un usage de consommateur, mais quand c'est lié soit à la production, soit à l'épreuve de soi-même, là je pense qu'il n'y a aucune ironie et c'est consubstantiel.
Est-ce que éventuellement vous pourriez nous faire petite lecture, Cyril Zola Place?
Alors pour la chair. Non, on va pas commencer par la chair. On va commencer par un petit poème qui, pour moi, est comme une autobiographie un peu crispée, où il y a beaucoup d'ironie. La route parallèle, les passages, les trajectoires, entre mon lit et tes rêves, l'immense panorama écaillé, d'ailleurs. La mort peut être nécessaire aux autres, on ne saurait tirer aux quatre points cardinaux ni tenter de classer le Kilimandjaro, ni détruire l'espoir. M, Cuba, l'enlisement du soleil dans la poche londonienne, le périple du poète journellement recommencé sur les trottoirs errants du délire élastique, le roulement des cigares dans le barrio chino, les dialogues qui se nouent aveuglément, comme des cèpes, comme des signes, un mot suit l'autre sans connaître son visage. Une femme traverse les rails, en sang, ensanglantée. Personne ne la voit, personne dans l'ascenseur. Je suis toujours ma route parallèle à celle qui n'existe pas.
Vous dites, Cyril Zola Place, elle écrit ce qu'il ne faut pas écrire.
Je pense qu'il y a toute une tradition de l'écriture poétique en France dans le XXe siècle et puis qui aujourd'hui devient dominante, où il y a une confusion entre le jeu du poète et le jeu de la poésie. Je crois qu'en fait, dans son écriture, dans ses livres, dans sa poésie, il n'y a aucune... d'une certaine manière, elle pourrait presque même dire qu'elle n'écrit pas de poésie, en fait. C'est-à-dire que la poésie, pour elle, est certainement pas là où on dit qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle n'est pas un lieu où on va aller. Elle est un avoir-lieu. Elle veut une forme de débordement. Elle veut un démantèlement, elle veut une défragmentation pour que les choses puissent, de manière singulière, que ce soit elle ou le lecteur, éprouver ce qui passe et la vie. Et d'une certaine manière, l'érotisme, le désir, en serait une métaphore, mais...
Alors, ce que vous dites, Cyril Zola-Place, à propos justement de la question de l'identité ou des identités chez Joyce Mansour, du jeu, alors c'est intéressant aussi parce que ça nous ramène, alors elle a aussi, avec beaucoup d'ironie aussi, mais elle s'est aussi penchée sur le sexe des mots, par exemple, et puis de façon moins ironique, s'est penchée sur ce qu'elle identifie comme étant la neutralité à l'œuvre dans le souffle. Et il faut peut-être rappeler que Joyce Mansour est donc d'une famille juive séfarade. J'aurais aimé savoir votre point de vue à vous sur... Alors, elle était laïque, extrêmement laïque. Vous me l'avez dit, vous me l'avez rappelé juste avant qu'on commence cette émission. Mais néanmoins, c'est de cette tradition-là qu'elle vient. Qu'est-ce qu'il en reste dans ses interrogations et dans son propre rapport à l'écriture, au verbe? On en revient encore à lui.
Ben c'est peut-être le corps, pour elle, c'est le corps de la lettre. Ben, on peut imaginer dans l'alphabet hébraïque, qui est un alphabet consonantique, où à un moment donné, on est confronté à l'ossature, au corps, à la matière, et puis c'est le souffle qui passe à travers cette ossature, à travers ce corps, qui fait vibrer et qui fait monter une voix. Donc en fait, comme si le verbe accouchait du corps à travers le souffle.
Quelle aurait été sa place finalement au sein de ce dernier convoi surréaliste, hein, parce que alors Breton évidemment l'a érigé en la femme poète surréaliste, ce qui en dit long sur la place des femmes dans le groupe. J'imagine qu'il y avait encore un peu de travail. Donc elle a eu une place particulière, en tout cas promue poète, femme poète, et non ni égérie, ni muse, ce qui est déjà pas mal. Par ailleurs, elle était aussi hôtesse, hein, c'est-à-dire qu'elle recevait beaucoup. Il y avait des dîners très célèbres chez elle. C'était quand même aussi une grande bourgeoise, mais il pouvait y avoir des dîners assez fous d'ailleurs.
L'exécution du testament.
Notamment, absolument. Et puis, par exemple, à un dîner autour de sa table, on pouvait trouver à la même soirée, au même dîner, Butor, Calvino, Cortázar, Alechinsky, Ionesco, tous ces gens-là dînant avec elle et s'amusant à divers jeux dans la plus pure tradition surréaliste.
Hein. Elle arrive dans la dernière fournée, on va dire troisième convoi du surréalisme historique. Et je pense en fait qu'elle est... Breton parle de génie, moi je n'aime pas tellement ces termes-là, mais en tout cas, je pense qu'il avait vu en Joyce Mansour et dans sa pratique de l'écriture une forme de surréalisme qui dépasse l'histoire ou qui dépasse l'historique du surréalisme. Un peu comme on peut avoir un baroque historique et puis des manières liées à des usages, des procédés, à une manière d'aborder l'écriture qu'on peut qualifier 200 ou 300 ans plus tard de baroque. Et je pense que l'écriture de Joyce Mansour, pour moi, est une forme de très bel exemple de ce qu'est le surréalisme comme rapport au monde et comme rapport à l'écriture.
Vous pensez à un texte en particulier quand vous dites ça?
Je dirais à tous, mais peut-être lire un petit texte d'un de ses récits en prose, le début. C'est extrait de Journal d'hiver, dimanche 11 novembre. Tu m'habites aussi sûrement que les grands arbres noirs encerclent mon vagin d'ombre. J'ai peur du noir, j'ai peur dans le noir. À l'extérieur de la maison, nuit et jour, des conifères font les 100 pas. Vois, ils ne sont plus reconnaissables. Déjà des tremblements agitent leurs racines, des nids remplis de gaz gouvernent leurs cheveux fous. Pourquoi n'aurais-je pas peur des arbres? Tu es si frivole. Autrefois, je t'attendais devant les fenêtres aveugles de notre chambre, sachant que tu te dandinais ailleurs sur 1000 plateaux de cristal de bohème, tel un grand vase vide, une cloche qui ne saurait sonner faute de clitoris dans la gorge. Ta bouche. Je pense à ta bouche et une énorme montagne de lave bouge vers le barrage. Te rappelles-tu le raz-de-marée immobile de la montagne qui se dressait, menaçant, derrière le pointu? Il y a à la fois une densité, une inertie. On sent un texte. Et ça, on le voit dans beaucoup, où en fait, elle peut partir d'un, d'une hypothèse, d'une première phrase, et après le déroulement du texte ne suit pas un ordre spatial ou chronologique, mais se déroule par contiguïté, par analogie, ou une forme d'autonomie du texte qui se génère lui-même, ou d'une autopoétique. Voilà.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
La voix de cave, hein, de Leonard Cohen, Waiting for the Miracle, 1992, hein, qui semble a priori bien loin de celle d'Unica Thurn, hein, dont vous faites le portrait, hein, le temps d'un roman graphique, Céline Wagner, qui paraît tout juste aux éditions La Boîte à Bulles, et on reviendra bien sûr sur cette notion de portrait. La voix de Cohen, c'est votre choix, alors sans doute par goût, pour le grain, mais également, j'imagine, hein, mais peut-être me trompe, pour le miracle. Hein. Ce miracle que Unica Thurn semble attendre dans votre album. Hein. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de miracle, hein. Céline Wagner.
Alors, oui, le choix de Leonard Cohen, il est à tout point de vue. Hein. Il est au niveau de la voix, il est au niveau de l'homme, il est de l'artiste et du miracle, évidemment. Alors le miracle chez Urne, c'est la mort. Alors comment interpréter le miracle de la mort ? Urne parle à aucun moment d'une vie après la mort ou de quelque chose comme ça. C'est vraiment comme si toute cette vie d'endurance, toute cette souffrance liée à ses, pas seulement à sa folie, parce que en réalité elle a souffert d'autres maux que la folie, mais dans son choix de persister dans sa schizophrénie, parce que quand on lit Unica Thurn, on a le sentiment qu'elle choisit de suivre le chemin de sa folie, de ce qu'elle appelle, elle, sa folie et sa merveille.
Elle choisit de l'accepter, en tout cas. Elle ne choisit pas sa folie, je suppose.
On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que, par exemple, ces premières crises ont eu lieu vers 40 ans. On imagine, enfin, quelqu'un, un psychiatre pourrait dire que la schizophrénie donne des signes avant. Elle choisit de suivre la voie de ses hallucinations. Elle dit que sa maladie, c'est ce qui lui a donné les plus grandes joies dans sa vie. C'est ce qui lui a donné l'euphorie. Alors, qu'est-ce que c'est de qu'est-ce que cette mort dont elle parle comme une merveille ? Et donc le miracle.
Et donc le miracle. Vous imaginez Céline Wagner dans l'album, alors c'est un tout petit détail, hein, mais néanmoins, vous imaginez une page de dictionnaire hein, qui serait une sorte de définition d'Unika Zürn, nom féminin vers 1916, Berlin-Grunewald, première définition donc rare, née de famille bourgeoise, jeune femme dans l'Allemagne d'Hitler, seconde définition technique, employée à l'Universum Film AG comme auteur et scénariste de films publicitaires. Troisième définition, courant, artiste ayant appartenu au mouvement surréaliste. Unika Zürn était la compagne de Hans Bellmer. Quatrième définition, médicale, c'est la femme schizophrène. Et puis enfin, cinquième, figuré et familier, femme folle. Qu'est-ce que vous saviez, Céline Wagner, d'elle avant ce travail? C'est tout ce que je viens de lire, ce que vous relevez dans ce dictionnaire, ou dit autrement, avec quelle fausse piste avez-vous commencé à travailler?
J'ai eu l'idée de cette définition du dictionnaire parce que il me semble qu'Unika Zürn a passé sa vie à tenter pas de se définir évidemment, mais de donner de ne pas donner ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire elle s'accepte en tant que folle, alors que tout le monde lui demande et l'a pris de se soigner et de guérir. Quand elle parle de l'érotisme, elle en parle du point de vue d'une enfant, c'est-à-dire que pour elle, la sexualité, elle appartient au monde de l'enfance. Dès qu'elle évoque la sexualité dans le monde adulte, on a le sentiment que ça relève de la douleur et de la souffrance. Comme si un poème tout à l'heure qui a été lu de Joyce Mansour me fait un petit peu penser à ça, comme s'il y avait une volonté de ces femmes de déconstruire l'objet de désir qu'elles sont censées être. En plus, ce sont de très belles femmes. Comme s'il y avait un désir de démonter le corps comme une pendule, de le remonter dans le désordre et d'offrir non pas en termes de désir, mais de s'offrir en termes d'étranger, en termes d'être nouveau, étrange, qui n'a pas existé avant elle, qui n'existera pas après.
Vous dites qu'elle n'est ni malade mentale, ni artiste surréaliste.
Alors évidemment, c'est pas pour dire que la schizophrénie n'existe pas, c'est pas du tout mon discours. J'ai envie de redonner à Zürn ce qui lui appartient, c'est-à-dire le choix d'avoir construit sa pensée sur son imaginaire et sur ses hallucinations. Peut-être que sa maladie, effectivement, elle l'a pas choisie. Encore que elle décrit parfaitement les conditions dans lesquelles elle l'a vu pointer du nez. Mais en tout cas, elle a choisi de faire confiance à sa voix. Et dès l'instant où elle s'est faite interner parce que ça prenait des proportions problématiques, elle devenait ingérable. Elle a fait des crises, elle se défaisait de tout, de ses papiers, de ses chaussures. Elle finissait par errer dans les rues. Donc d'elle-même, elle s'est rendue à l'hôpital psychiatrique pour y dépérir littéralement. Quand on donne le traitement à Unika Zürn, le grand hypnotiseur disparaît. Et c'est à partir de là qu'Unika Zürn meurt.
Peut-être rappeler ce que c'est que le grand hypnotiseur, pardon, parce que ça paraît évident quand vous
alors,
me dites
oui,
comme
pardon,
ça.
Le... Ouais, excusez-moi.
Que vous ouvrez sur lui d'ailleurs, hein, ce sont les premières planches de l'album.
Oui. Alors le grand hypnotiseur, c'est le personnage qu'elle a créé, qui est son guide spirituel, qui est l'homme parfait, l'amour parfait, la relation parfaite. Elle lui a mis le visage d'Henri Michaud plus tard, parce qu'en réalité, quand on lit « Sombre printemps », on s'aperçoit que le grand hypnotiseur est déjà là, sous le nom de l'homme jasmin aussi. Enfin, il y a déjà le jasmin, il y a déjà cet hypnotiseur. Unika sait très bien, et les schizophrènes le savent très bien, beaucoup de psychotiques ont la hantise ou l'impression d'être hypnotisés.
À distance.
Ça n'a rien à distance. Donc ça n'a rien d'original ni de propre à Unika Zürn. Ce qui appartient à Unika Zürn, c'est qu'elle tient à cet hypnotiseur, c'est que cet hypnotiseur lui veut du bien, c'est qu'il est le seul être capable de la comprendre dans ce monde maltraitant, parce qu'elle est née dans un monde maltraitant, depuis sa famille jusqu'au contexte historique qui était la montée du nazisme, les choix de sa mère, ses amitiés nazies, etc., qui ont ensuite eu sur elle les répercussions de la culpabilité, etc. Donc elle est née dans un monde maltraitant. Le grand hypnotiseur, c'est celui qui lui veut du bien. Donc ce qui est formidable, c'est que Unika Zurn a vécu un viol quand elle était enfant par son frère. Est-ce que ça a conditionné son rapport à l'amour dans le souci de la distance? Elle supportait pas la distance. Elle appelle ça la grande et belle distance. Elle a écrit des poèmes là-dessus. Elle fait l'éloge de la distance en amour. Pour elle, l'amour ne peut exister que dans les corps séparés. Et le grand hypnotiseur, elle l'imagine en fauteuil roulant, c'est-à-dire incapable de la toucher. Là où c'est extraordinaire, c'est quand même qu'elle a fini sa vie avec Hans Bellmer, qui a eu une attaque de cérébrale et qui s'est retrouvée en fauteuil roulant pendant des années. Et mutique.
Alors cet album Céline Wagner se présente d'une façon assez particulière, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas d'un récit ou d'une narration chronologique ou ni même d'une biographie. Hein. Vous le présentez comme un portrait qui serait presque un anti-récit d'ailleurs, une façon de vous glisser dans l'expérience Unika Zurn, c'est-à-dire que il n'y a aucun document à l'intérieur de cet album, c'est-à-dire pas de photographie, pas de poème. Les lettres sont fictives, les poèmes anagrammes sont signés de vous, les lettres on l'a dit aussi, les dessins automatiques sont également les vôtres, pas de contexte à proprement parler. Vous vous concentrez sur l'année 1957, hein, qui est l'année où il va y avoir ses premières crises, hein, son premier internement, où elle est à Paris, où elle a une quarantaine d'années. Vous vous concentrez sur Paris, alors que le couple Bellmer Unika Zurn va faire de nombreux allers-retours entre Paris et Berlin. Donc vous vous êtes choisi un espace dans lequel un temps et un espace dans lequel expérimenter Unika Zurn. Et l'album alterne des planches peintes et des planches de texte ornementées avec des planches parfois muettes et puis des atmosphères chromatiques très fortes. Alors je pense en particulier à ce bleu froid que vous associez dans l'album au surréaliste, à l'hôpital psychiatrique, au fond que vous associez au réel, hein, alors même qu'on ne sait pas trop hein, ce qui est réel et qui ne l'est pas. Et puis le rouge, par exemple le manteau rouge de Unika Zurn, ou des atmosphères orangées, jaunes, ocres, davantage du côté de l'univers ou de l'imaginaire d'Unika Zurn, ne sachant pas très bien ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. C'est cette distribution-là des couleurs qui s'est imposée en premier lieu.
Oui, au départ, j'avais besoin de dissocier le réel de l'hallucination, et j'avais besoin de dissocier le jour de la nuit. J'ai commencé comme ça, et puis rapidement, ça s'est mélangé parce que finalement, c'était pas possible de rester dans un précaré réel et dans un précaré hallucinatoire. Donc le manteau rouge, en fait, c'est comme si, quand dans l'univers bleu qui est l'univers du réel, elle porte ce manteau rouge comme si elle portait en permanence ses hallucinations et ses délires, comme si elle restait elle-même en permanence.
Alors, puisqu'on parle de réel, vous titrez votre album La trahison du réel, qui est une formule ambiguë, s'il en est. Hein. De quel traître parle-t-on au fond? Est-ce que le traître, c'est elle? Est-ce que c'est le réel? Est-ce que c'est vous, Céline Wagner?
Il faudrait y réfléchir. Moi, dans mon esprit, la trahison du réel, c'est on te fait une promesse à ta naissance. On te dit, alors par exemple, Unika Zurn, qui naît dans une famille bourgeoise avec un père qu'elle adore, une mère beaucoup moins, assez indifférente, très mondaine. Elle a priori tout pour avoir une vie d'intellectuel réussie, etc. Et tout s'effondre. En fait, on veut absolument définir quelque chose. Et donc, la trahison du réel, c'est, imaginons le bon petit schizophrène qui serait un bon élève, qui voudrait, ne plus avoir d'hallucinations, guérir et tout ça. Et il dirait, je prends le traitement et je veux bien guérir. Et il se retrouverait dans quel monde? Mais il y a aussi des gens comme Unica Zurn et d'autres dont les sources d'hallucinations, dont les délires sont des délires jouissifs. C'est-à-dire que la vie normale ne leur apporte pas autant de plaisir et de joie. Donc la trahison du réel, c'est tout ça.
On écoute un extrait de l'homme jasmin.
C'est alors que pour la première fois, elle a la vision de l'homme jasmin. Immense consolation. Reprenant son souffle, elle s'assoit en face de lui et le regarde. Il est paralysé. Quel bonheur! Jamais il ne quittera le fauteuil qu'il occupe dans son jardin, ou même en hiver le jasmin fleurit. Cet homme devient pour elle l'image de l'amour. Plus beau que tous ceux qu'elle a jamais vus, ses yeux-là sont bleus. Elle se marie avec lui. Le plus beau, c'est que personne n'en sait rien. Et c'est son premier, son plus grand secret. La présence immobile de cet homme lui dispense deux leçons qu'elle n'oubliera jamais. Distance, passivité. Beaucoup plus tard, on tourne en elle des clés, l'une après l'autre, mais elle ne s'ouvrira pas. On se lasse vite de cette petite boîte inutilisable et on la jette. Car dans les années qui viendront, elle ne verra par-dessus l'épaule des hommes sur laquelle elle se penchera, rien que l'homme jasmin. Elle restera fidèle à ses noces d'enfant.
Je reviens à l'homme jasmin qu'on a déjà évoqué, Céline Wagner, parce que c'est aussi ce qui constitue au fond, alors il y a l'homme jasmin, il y en a d'autres aussi, mais qui constitue votre matière pour travailler, peut-être même davantage, en tout cas pour dessiner ou pour peindre, pour représenter peut-être davantage que la documentation à proprement parler. Je pense par exemple à la représentation même d'Unica Zurn qui vous a posé problème, puisqu'on parlait tout à l'heure de portraits, de visages, etc. Et au fond, vous dites que vous avez imaginé ce visage, ce corps, d'après ce que ces livres et ces dessins pouvaient vous en dire. Qu'est-ce que ça voulait dire ?
Oui, alors déjà, chapeau, parce que l'extrait que vous avez lu, c'est vraiment... C'est un extrait que j'aime énormément.
Qui parle de distance et de passivité, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure.
Qui est tout à fait à propos. Et la phrase « personne n'en sait rien », elle est très importante. L'homme jasmin, alors bien sûr, il m'a beaucoup inspirée et c'est normal parce que en réalité, c'est là qu'elle fait le plus d'images. J'avais travaillé précédemment sur la danse, sur le buteau. Donc j'avais travaillé sur le corps, vraiment dans son détail. Et là, avec Unica Zurn, j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment travailler, parce que là, il s'agissait plus d'un corps, il s'agissait plus d'un organisme, il s'agissait plutôt d'une silhouette mouvante, changeante, qui s'éloigne, qui se rapproche. Il s'agissait plus d'une tache de couleur. Et en fait, en la lisant, je me disais, plus je la lis, plus elle s'éloigne. Et finalement, ça a été une alternance entre un portrait, son visage, parce que le visage est très important chez Unica Zurn. D'une part, par son obsession elle-même des visages. D'autre part, parce que c'est une femme extrêmement belle. Je pense qu'il a souffert de se voir vieillir. Et elle le dit, elle l'écrit. C'est pas moi qui l'invente. Je pense que sa déconfiture physique l'a tourmentée au-delà de l'imaginable et qu'il était important de le tracer, de la tracer ce vieillissement. C'est pas seulement un vieillissement parce que c'est aussi les traitements et la dépression qui transforment le visage. Donc c'est une une réflexion sur le portrait dans le sens où ça m'aurait servi à rien de prendre une photo d'Unique Azourne quand elle était belle et une photo d'Unique Azourne quand elle était vieillissante et où elle avait littéralement le visage de la folie, un peu comme celui d'Artaud, très creusé, etc. Ça m'aurait servi à rien parce que ce sont des contours. Ce qui fait un visage quand on le peint, c'est toutes les forces qui animent les muscles, des yeux, des joues, les tensions de la bouche, c'est ça un portrait. Et comme je n'avais pas le personnage vivant sous les yeux, j'ai dû, à travers ses lectures, à travers ses textes, imaginer ce qu'elle avait pu ressentir dans certains moments. Alors, j'ai donc alterné ces gros plans, ces visages et cette fameuse silhouette qui s'éloigne. Par ailleurs, dans l'homme jasmin, où elle raconte beaucoup d'images de ses hallucinations, sont très précises. Là, comme ça, en tête, il me revient l'image de, elle voit des cheminées à travers la fenêtre de son hôtel qu'elle imagine comme des tombes. Et elle entend un homme pleurer à côté de sa chambre. C'est probablement une hallucination. Et elle imagine que les cheminées sont en train de se transformer en tombe en hommage à cet homme qui pleure ses morts. Enfin, c'est des trucs dingues. Et elle, c'est pas de la poésie, ça. C'est des choses qu'elle voit, qu'elle entend, qu'elle voit. Et ça, c'est pour l'image. Mais il y a un livre extraordinaire, et je crois que c'est celui que je préfère d'Unica, c'est le Vacances à Maison Blanche. Où là, c'est plus du tout des images. Là, elle est vieillissante, belle-mère est handicapée. Ils sont tous les deux extrêmement diminués et ils vivent dans un espace réduit. Ils ont une aide à domicile qui vient s'occuper d'eux. Ils ont vraiment, après avoir vécu une vie d'artiste et pas dans le confort en
non,
plus.
Des conditions difficiles, oui.
Des conditions très difficiles, mais enfin, ils ont quand même connu toute la faune artistique fascinante de cette époque-là. Ils étaient populaires, c'était un couple qui fréquentait beaucoup les expositions, qui avait beaucoup d'échanges, qui écrivait, etc. Là, d'un seul coup, ils se retrouvent tous les deux. Lui malade, qui a du mal à passer de son lit à sa chaise roulante, elle qui est complètement au bout du rouleau et qui voit pas en quoi elle pourrait lui être utile, et elle trouve la force d'écrire. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand je dis que j'ai pas voulu raconter la vie d'Unica Azourne, mais faire l'expérience de Azourne, ça en fait partie. Écrire dans un état de désespoir à ce point, c'est-à-dire en sachant que il y aura pas de suite, en sachant qu'il y a pas d'avenir ni littéraire, ni artistique, ni rien du tout. Elle a une amie Ruth Henry qui est décédée maintenant. Elle sait que cette amie la traduira. Voilà, qu'elle peut avoir confiance en elle pour récupérer ses manuscrits, les corriger, trouver un éditeur et tout. Elle sait que, mais il n'y a plus d'avenir. Et quand elle écrit son journal, elle-même se désespère. Elle dit, mais ce que j'écris, c'est d'un ennui, c'est terrifiant. Et là, moi, je suis complètement admirative de ce genre de performance. Là, c'est une performance, oui, d'artiste, franchement.
Alors, c'est précisément, d'ailleurs, dans cet élan-là, hein, que vous allez vous glisser, Céline Wagner, hein, vous l'avez dit, hein, c'est moins, effectivement, raconté. Enfin, c'est surtout pas, d'ailleurs, raconté, Unica Azourne. Et je me demandais en quoi cette expérience-là, c'est-à-dire ce portrait, ce personnage, ces performances d'Unica Azourne, vous ont permis de repenser le roman graphique, c'est-à-dire le rapport texte, peinture. Peut-être elle plus que tout autre sujet.
Alors là, c'est une excellente question. En fait, chaque personnage de mes romans graphiques, même les précédents, sont l'occasion de remettre sur la table le procédé de la narration graphique. et les choix des artistes que j'ai envie d'approcher dans leur œuvre et c'est des artistes qui me fascinent, mais c'est également des artistes qui ouvrent des portes et qui démontent complètement. Alors, je vous avais fait passer un extrait de Cantor qui dit, en parlant de l'avant-garde, c'est vrai.
Oui, vous vouliez faire entendre effectivement la voix de Tadeusz Cantor. Allez, si, on peut l'écouter. Allez.
Prendre les risques, et ça, je considère comme la chose la plus importante. Prendre les risques. Et sans cela, on ne crée rien d'essentiel, seulement des choses conventionnelles et non engagé. Le risque plus grand, c'est le risque de sacration personnelle. Parce que dans le développement personnel, on risque toujours son passé. Son passé. Et j'efface toujours mon passé. Quand je fais quelque chose de nouveau, j'élimine mon passé. Et c'est le risque. C'est le risque pour l'artiste, c'est le risque le plus grand.
C'est ce que vous vouliez entendre, Céline Wagner ?
Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que le bouquin précédent n'est pas une méthode pour le bouquin suivant. Chaque nouveau, en l'occurrence, chaque nouveau roman graphique est l'occasion pour moi de défaire ce que j'ai fait avant et de le remonter. C'est pour ça que c'est très difficile. Pour moi, mes bouquins, ça me prend 2 ans et demi, 3 ans. Je me dis qu'avec l'expérience, un jour, ça me prendra un peu moins de temps, mais non, en fait, ça me prend toujours autant de temps parce que je démarre au quart de tour et j'arrive fatalement au moment où il faut à nouveau, comme dit Cantor, tout risquer, ça veut dire on se dit qu'il faut tout risquer quand on commence à traiter de la même façon une casurne qu'on traitait le buteau dans le bouquin d'avant. Et là, on se dit non, c'est pas possible. Une casurne, elle nécessite sa propre mécanique. Et du coup, comme elle-même ne se raconte pas comme un tout, c'était pas à Céline Wagner de la raconter comme un tout. C'est-à-dire que Unicazurne, elle est morcelée, elle est décomposée. Alors je veux la raconter de cette façon-là. Je veux respecter ce corps qui n'en est pas un. Et ça nous renvoie. Il faut le dire au corps sans organes de Deleuze. On peut pas faire autrement que de le dire. Je suis désolée, mais
ne vous excusez pas pour lui.
Ouais, non, mais j'imagine.
Vous y avez droit.
Il est tellement cité que bon, les gens qui connaissent bien vont dire oh là là, encore lui et tout ça. Bah oui, encore lui parce qu'il est tellement génial que oui, encore lui. Alors le corps sans organes, eh bien c'est Unicazurne qui se raconte. Comme des pièces détachées d'un corps, comme les pièces détachées d'une pensée, et qui va jusqu'au bout de ça. Et dans le bouquin, dans La trahison du réel, à un moment, j'écris elle s'est détournée de l'œuvre pour explorer la déraison. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, en tant qu'artiste, dans le milieu où elle était, dire « je vais faire une œuvre, finalement j'ai de la chance, je suis schizophrène, tous les surréalistes rêveraient d'être schizophrènes et de voir des cheminées qui se transforment en tombes et tout ça ». Elle aurait pu utiliser sa maladie, mais elle en a rien fait. C'est pas du tout comme ça qu'elle a pris la chose. C'est une artiste intègre. Et c'est pour ça que ça me dérange toujours quand sous l'homme jasmin il écrit récit d'une malade mentale, Unicazurne, femme schizophrène, compagne de Hans Bellmer dans l'ombre de l'artiste, etc. On n'y était pas, on n'en sait rien. Unicazurne, en créant, en écrivant, elle a fait un acte politique. Et ça, on peut pas lui enlever. Quelles que soient les conditions dans lesquelles elle l'a fait.
On va s'arrêter là. Céline Wagner, Cyril Zolaplace, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission que je vous laisse terminer. Entre vous et sans moi, alors exercice un peu périlleux s'il en est, en tout cas en aveugle, l'un ici à Paris et l'autre là-bas à Périgueux. Néanmoins, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci Céline.
Oui, merci Cyril.
Je voulais rebondir sur deux choses que vous avez dites, que j'ai trouvées très, très importantes. Vous avez commencé en parlant de Tsurne, son refus de la sexualité ou de l'érotisme des adultes. Oui. Comme si là aussi, dans cet érotisme convenu, il y avait toujours une fonctionnalisation de la sexualité, qu'elle soit pour la reproduction ou pour qu'elle soit pour le plaisir ou la jouissance, et de revenir à quelque chose de beaucoup plus, enfin de beaucoup moins contraint et de beaucoup moins déterminé. Et je pense que l'acquiescement de la schizophrénie ou de sa schizophrénie dont vous parliez tout à l'heure, elle est très salvatrice pour la production poétique. Et comme vous l'avez dit juste à la fin, il faut se détourner de l'œuvre si on veut que la poésie ait lieu, d'une certaine manière. En tout cas, vous parliez aussi tout à l'heure de dislocation du corps chez Unika Tsurne, comme une forme de défragmentation, de multiplication aussi, parce que la fragmentation permet la multiplication, et donc à dissoudre un moi centré, cloisonné, pour le décentrer et pour l'ouvrir à d'autres épreuves. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs probablement dans ces poésies anagrammaticales, où elle défragmente la morphologie, démantèle la syntaxe, pour retrouver des espaces de liberté qui potentialisent à chaque fois le réel et ne le réduit pas à une seule réalité dans laquelle peut-être ces hommes en blanc voulaient l'enfermer.
Oui, oui. Ben, c'est aussi la question de prendre le corps comme une anagramme, hein, comme si, bon, ça c'était la démarche de Bellemare, qui considérait qu'on pouvait démonter le corps comme on démonte des mots, comme on démonte des phrases et les recomposer selon sa créativité, quoi. Et oui, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la sexualité, c'est que les femmes ou les hommes, enfin qui évoquent la sexualité dans la poésie ou dans leur œuvre, sont pas forcément des dépravés entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, on imagine des gens, Bellemare, on va l'imaginer comme quelqu'un qui serait constamment dans une activité sexuelle débordante, etc. Et comme Zurne et son entourage, parce qu'il y a des photos de Bellemare où je crois où il prend des alors il y a Unika qui est prise en photo, mais il y a aussi Nora Miltrami, je crois, qui est prise en photo dans des positions très érotiques, etc. Et effectivement, cette piste là quand j'ai travaillé sur Zurne, je me suis dit, et le sexe. Que faire du sexe, comment imaginer leur approche du sexe à ce couple. En réalité, je pense que vu les conditions de vie, les conditions psychiques, le sexe devait être extrêmement compliqué. Et il passe par l'art, ça ne veut pas du tout dire qu'il était omniprésent dans la vie. C'est à ça que je voulais... À ça que m'avait fait penser votre réflexion sur le...
Alors, dépravé, quand je disais dépravé, c'était juste sur oui, l'image convenue et sur le fait d'un rapport
bien,
égocentré à l'érotisme.
Il n'y a pas de jugement. Oui, bien sûr.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à France Bleu Périgord pour le duplex. Aujourd'hui à la technique à Paris, Alain Joubert, Thierry Beauchamp pour la préparation et cette semaine, Émilie Valla pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Cyril Zola-Place et Céline Wagner sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction, mais tout de suite, c'est l'heure, et c'est très bien, de la méthode scientifique.